Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de midi à la présentation Lievin Bouinga. D'abord les titres, c'est confirmé, un dialogue direct entre Kinshasa et le M23 AFC sous la médiation du président angolais pointe à l'horizon. Annonce faite par la présidence angolaise à l'issue de la visite effectuée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à son homologue angolais João Lourenço à Luanda. Détail dans ce journal. Bukavu vit au rythme des enlèvements à répétition, une ville sous occupation du M23 soutenue par le Rwanda. Dernier cas en date reporté hier mardi, deux membres d'une même famille et le recteur de l'université Simon Kimbangu. La semaine mondiale de la maladie de Glaucomore est en cours, c'est jusqu'au 15 mars. Nous parlons de cette maladie des personnes malvoyantes avec Jacques Sambeya, coordonnateur de l'ASBL, le cri de Bartimée, qui lutte contre les droits des personnes malvoyantes. Il est notre invité. Encore une fois, bonjour, je le disais tantôt, c'est confirmé, bientôt un dialogue direct entre Kinshasa et le M23 AFC sous la médiation du président angolais, une annonce faite par la présidence angolaise à l'issue de la visite effectuée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à son homologue angolais João Lourenço à Luanda. D'autres détails avec vous Blaise Makassi.
Le communiqué renseigne qu'à la suite de la brève visite du travail du président Félix Tshisekedi à Luanda, la partie angolaise en tant que médiateur dans le conflit qui touche l'est de la RDC va établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive. Cependant, la date exacte du début des pourparlers entre ces deux parties n'a pas été précisée. De son côté, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État congolais, a affirmé prendre acte de cette procédure. Mais elle rappelle par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi. Et elle réaffirme l'attachement de la RDC à la résolution 2673 du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya, qui répondait à une question lors du briefing avec la presse, a affirmé qu'il faut attendre dans les prochains jours les précisions qui pourront être faites si et seulement si cette initiative devrait se faire. Cette annonce intervient deux jours avant la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui se tiendra par visioconférence le 13 mars afin d'examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo.
Parlons à présent de ces précisions du ministre des Infrastructures et Travaux publics hier à Kinshasa. Tutsi congolais, le ministre Alexis Guisaro rejette le prétexte du Rwanda d'envahir la RDC avec l'idée de protéger les Banyamulenge. Il a dit lors du briefing de presse organisé hier mardi dans la capitale avec son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya. Pour Alexis Guisaro, le régime de Kigali n'a aucune raison de venir régler un quelconque différend entre les Congolais. Il a en outre recommandé aux Congolais de vivre dans l'unité et la cohésion pour ne pas donner de la voix aux agresseurs. Ces propos sont recueillis par Étienne Lissumbo.
Le régime de Kigali aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kagame, et parce que M. Kagame est Tutsi, comme je le suis, comme il y a des communautés à cheval sur chacune de nos frontières, mais à cause de cette ressemblance de phénotype, on considère que nous épousons leur cause. Il n'en est pas question. Moi, et comme beaucoup d'autres Banyamulenge, et je dirais même des Tutsis, de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc, lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos. Parce que notre communauté a toujours été représentée.
Relations interinstitutionnelles, la première ministre Judith Suminwa a échangé hier mardi tard dans la soirée avec le bureau de l'Assemblée nationale en prélude de la rentrée parlementaire. Sous le lead du premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbaye, le bureau de l'Assemblée nationale a conféré avec la chef du gouvernement sur trois points essentiels, dont notamment la situation sécuritaire que traverse le pays. À la veille de la rentrée parlementaire, Judith Suminwa a présenté au bureau de l'Assemblée nationale un état de lieu de la situation politique, économique et sécuritaire du pays afin de permettre au Parlement de travailler en harmonie avec le gouvernement. Michel Kifindangoy.
Accompagnée de Neige Nsélé, vice-ministre des Finances, la chef du gouvernement rappelle au bureau de l'Assemblée nationale son engagement pris devant le Parlement au cours de son investiture, celui d'établir un cadre de collaboration permanent avec les deux chambres représentatives pour asseoir la paix définitive dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa.
Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de guerre, d'occupation à l'est du pays. Nous allons avoir la rentrée parlementaire à la fin de la semaine, il était important qu'on puisse faire le point par rapport à la situation actuelle et voir ensemble avec le bureau quels sont un certain nombre de pistes à entrevoir pour pouvoir mieux gérer les choses. L'Assemblée nationale, évidemment, va continuer à jouer son rôle de contrôle parlementaire.
La première ministre Judith Suminwa rassure que ces échanges seront réguliers et permanents afin de mener à bien la gestion de la chose publique. En l'absence de son président Vital Kamerhe, le bureau de l'Assemblée nationale a été représenté par Isaac Jean-Claude Tshilumbaye, premier vice-président, Christophe Mboso, deuxième vice-président, Jacques Joly, rapporteur, Chimène Poli-Poli, questeur et Grace Nehema, questeur adjointe.
Direction le Haut-Katanga, la population de Kipushi est appelée à cultiver le vivre ensemble et à lutter contre le message de haine. C'est ce qui ressort de la journée de réflexion organisée hier mardi dans cette entité par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec ses partenaires dont la Division provinciale des droits humains et la Commission nationale des droits de l'homme. À cette occasion, les différents intervenants ont appelé les participants à promouvoir toutes ces valeurs pour assurer la cohésion nationale. D'autres précisions avec Jean Gandou.
Placée sous le thème « La cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix », cette journée de réflexion a réuni plusieurs personnes issues des mouvements des jeunes, des associations des femmes, des ONG de défense des droits de l'homme, les autorités politico-administratives et autres. John Lumingu, le responsable de l'ONG dénommée Mission internationale de défenseurs des droits de l'homme, a indiqué qu'il était plus que temps d'organiser cette rencontre pour interpeller les uns et les autres car
les discours de haine avait la facilité d'inciter à la violence, de saper la cohésion sociale et la tolérance, ainsi que de causer des dommages psychologiques, émotionnels et physiques à travers le tribalisme, la haine et d'autres formes d'intolérance et de discrimination.
L'administrateur du territoire de Kipushi a encouragé ses administrés à éradiquer la discrimination et la stigmatisation qui fragilisent l'harmonie sociale. Et pour y parvenir, Joseph Kongolo, le coordonnateur provincial de la CNDH dans le Haut-Katanga, est l'un des orateurs du jour a souligné que
la population doit être éduquée à la culture de paix dans le cadre du mécanisme de prévention de conflits. De l'autre côté, le dialogue est un mécanisme par excellence de gestion de conflits.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi Bukavu qui vit au rythme des enlèvements. Une ville sous occupation du M23 soutenue par le Rwanda. Deux cas ciblés ont été reportés hier mardi, à savoir celui de deux membres d'une même famille et du recteur de l'université Simon Kimbangu. Ronlin Tibonera pour les détails.
S'agissant de ces trois récents cas d'enlèvement, il y a eu plus de pères que de mâles. Ils ont été libérés dans la soirée après des interrogatoires au service des renseignements des occupants. Même si personne ne connaît les motifs profonds des interpellations en cascade, la libération du professeur recteur de l'USK a connu l'implication de la conférence des établissements de l'ESU, nous a confié une autorité académique de Bukavu. Les deux autres membres de famille d'un acteur politico-militaire du Sud Kivu seraient aussi libérés, tandis qu'un membre proche de la même famille. Les concernés restent enjoignables pour éclairer sur les conditions de détention durant tout le temps qu'ils ont passé auprès des services interpellateurs. À Bukavu, les annonces des recherches des enfants et adultes portés disparus inondent les réseaux sociaux.
Nous vous proposons à présent cette réaction de Moïse Nyarugabo sur les propos du vice-gouverneur du Sud Kivu sur nos antennes. L'autorité provinciale soutenait qu'il y a des éléments du M23 dans la commune rurale de Minembwe. L'ancien sénateur rejette en bloc cette version du vice-gouverneur et déclare, je cite, « Il n'y a jamais eu des aéronefs à l'aérodrome de Minembwe ». Moïse Nyarugabo ajoute que des éléments du M23 ne sont jamais arrivés sur place en appui aux groupes armés locaux de Tuiraneo et Red Tabara, en matériel de guerre et en homme, il le dit au micro de Radio Okapi.
Je viens de suivre avec stupéfaction les déclarations de l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu, le même qui avait demandé aux groupes armés d'aller massacrer les Banyamulenge il y a quelques temps. J'affirme qu'il n'y a jamais eu d'aéronef à l'aérodrome de Minembwe, ni ceux qui ont atterri ou ceux qui ont été détruits. J'affirme aussi qu'il n'y a aucun élément M23 à Minembwe, ni vivant, ni tué. Autant, d'ailleurs, qu'il n'y a aucun élément FRDC, parce qu'ils y ont fui depuis le 21 février. Je mets au défi le gouvernement, les FRDC, le vice-gouverneur, d'en apporter la preuve contraire. Tout ceci est une campagne ignoble pour essayer de justifier les crimes de guerre du gouvernement qui envoie des drones et des avions de chasse bombarder les civils et leurs villages là où il n'y a même pas une ligne de front. De toute façon, les avions ne peuvent pas récupérer Minembwe, c'est juste pour tuer et détruire. Mais comme le gouvernement et les FARDC et le vice-gouverneur semblent ne pas savoir où se trouve le M23, je vais les aider.
Sud qui va encore, mais sur le plan économique, le gouvernement provincial délocalisé lance un appel aux opérateurs économiques d'Uvira à reprendre les activités interrompues depuis à peu près un mois suite aux effets de la guerre du M23 et son allié le Rwanda contre l'État congolais. En réponse, les opérateurs économiques préfèrent d'abord observer l'évolution du baromètre sécuritaire dont les indicateurs virent encore au rouge selon eux. Biamungu Zembe Zembe en dit plus au micro de Radio Okapi.
Nous avons fait une réunion pour voir la situation sécuritaire et comment la reprise des activités. Et nous, opérateurs économiques, avons donné des préalables. Parce que quand on nous a dit qu'il faut que toutes les grandes activités s'ouvrent, nous avons posé des conditions que nous ne pouvons pas nous engager. Commencer à ouvrir de magasins et consorts pendant qu'il y a prolifération des armes. Il y a des Bazalendo, des FRDC, tous incontrôlés qui se promènent avec des armes partout, non encadrés, pas de ravitaillement et consorts. Alors, ils ne supporteront pas voir quelqu'un qui est en train de compter l'argent et eux ne sont pas assis. Ils risqueront de vous traquer, de vous accuser, de vous filer et enfin, il y aura toujours des meurtres et de la perte des opérateurs économiques. C'est ce que nous avons dit comme première condition. Et la deuxième condition, nous avons demandé qu'il y ait ouverture de banques et des entreprises des microfinances. Parce que les stations, les grands magasins, les grandes entreprises peuvent ouvrir et quand on constate que vous êtes en train de vendre et vous n'avez pas, il n'y a pas les mouvements de banque, on risquerait de vous retrouver dans la maison.
Autre nouvelle, un hôpital sans eau potable. Et oui, cela se passe à Matadi, dans le Congo central. Et il s'agit de l'hôpital de Kinkanda qui est en manque de ce liquide précieux depuis plusieurs mois. Du coup, le chaos s'installe dans l'hygiène et le fonctionnement de cette formation sanitaire, d'après le médecin directeur de ce plus grand hôpital de la province, qui note que cette situation, dont les causes demeurent inconnues, met à mal l'hygiène et le fonctionnement de l'hôpital, y compris de sa morgue. Raison pour laquelle, docteur Bijou Soki demande aux responsables de la régie des eaux et aux autorités de la province de s'investir pour résoudre rapidement ce problème. Reportage Nana Pluriche Mambo.
À l'hôpital provincial de Kinkanda, l'eau ne coule plus des robinets depuis près de 6 mois. Une situation critique pour les patients, les gardes malades et les personnels soignants obligés d'acheter de l'eau dans les parcelles environnant l'hôpital. L'hôpital, lui, recourt à l'eau du fleuve qu'il transporte dans des tricycles. Conséquence, l'hygiène est compromise notamment dans les toilettes et à la morgue et accroît les risques de propagation des maladies. Docteur Bijou Soki, médecin directeur de l'hôpital provincial de Kinkanda.
Nous demandons aux autorités de la régie des eaux de s'impliquer. L'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, on ne sait pas assainir l'hôpital. Donc, il y aura beaucoup de cas d'infection post-opératoire. Même à la morgue, il n'y a pas d'eau. Imaginez, il morgue sans eau. C'est grave, hein.
Pour le directeur provincial de la régie des eaux, ce manque d'eau à l'hôpital de Kinkanda est dû à la vétusté et bouchage de sa tuyauterie. Et cela n'est pas la responsabilité de son entreprise, laquelle dessert l'eau 3 à 4 fois la semaine dans les quartiers où se trouve l'hôpital. Toutefois, Théodore Socrate Kabeangando promet de faire une descente dans cet hôpital pour s'enquérir de la situation sur terrain et voir ce qu'il peut faire. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une loi autorisant le président de la République à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc qui doit servir à porter assistance aux détenus, notamment des migrants, et autoriser le transfèrement mutuel des condamnés entre les deux pays.
L'invité.
La semaine mondiale du glaucome est en cours, c'est jusqu'au 15 mars. Nous parlons de cette maladie avec Jacques Sambeya, coordonnateur de l'ASBEL, le cri de Bartimée, qui lutte pour les droits des personnes malvoyantes. Un des combats de Jacques Sambeya est d'éviter que d'autres personnes perdent la vue comme lui à cause de cette maladie. Il plaide donc pour une subvention de cette maladie par l'État et des dépistages précoces gratuits, surtout chez les jeunes. Jacques Sambeya s'entretient ici avec Trio Banzé.
Bonjour, monsieur Sambeya.
Bonjour, la radio Capi.
C'est quoi le glaucome et qui sont les personnes les plus exposées?
Le glaucome est une pathologie sécessante qui est irréversible, qui ravage les nerfs optiques et la finalité, c'est la cécité totale. Jadis, c'est connu que c'est une pathologie de personnes à troisième âge. Actuellement, ce n'est plus le cas, malheureusement. Le scientifique sous d'autres siècles vient de le prouver qu'elle est congénitale et juvénile, même les enfants. Le bébé naît avec le glaucome et c'est ce qui est systémique.
Vous avez vous-même perdu la vue à cause de cette maladie. Comment cela a commencé et comment vous traversez cette situation?
Oui, j'avais 18 ans. C'était pas ici à Kinshasa, c'était à Gemena, en 6e des humanités. En pleine salle de classe, je voyais les tableaux flous. Je suis allé voir l'ophtalmologue. Il dira que c'est le glaucome qui a déjà touché l'œil gauche. S'il ne fait pas la chirurgie, ça va traverser à l'œil droite. Alors je me suis dit, subir la chirurgie au fin fond du pays là-bas, c'est dangereux. Je ne suis pas arrêté là, je suis allé à Tandala, je suis allé à Karawa sans succès. Et après, nous sommes venus ici à Kinshasa. Mais c'était la même chose. Puis ça a traversé l'œil gauche. Il faut mettre des colliers à vie pour arrêter la progression de la maladie. Plus les jours s'égrenaient, plus la situation s'empirait. Et j'avais une forte vision et ça commençait à s'abaisser. Et je suis devenu malvoyant à forte vision et actuellement malvoyant à faible, très très faible vision. Pendant que je me rendais dans les services d'ophtalmologie, c'est là où j'avais rencontré certains amis, que je ne suis pas les seuls. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes, des semblables comme moi, qui souffraient de la même pathologie, mais les ophtalmologues n'avaient pas de solution. Parce qu'en bref, le glaucome, c'est quoi? C'est les nerfs optiques qui s'atrophient. Il n'y a plus moyen de transmettre les images dans le cerveau.
Mais à Kinshasa, en RDC, tout comme partout au monde, plusieurs personnes qui ont les problèmes de la vision souhaitent porter des lunettes un peu pour se mettre à l'abri. Est-ce que c'est le cas pour cette maladie?
Pas du tout. Le glaucome, non. Non. Le glaucome, c'est un problème de tension oculaire interne à l'intérieur. Même si vous mettez la lunette à l'extérieur, ça ne va rien évoluer.
Votre parcours vous a amené à créer une ASBEL dénommée Cri de Bartimée. Dans cette structure, quel est votre combat aujourd'hui en ce qui concerne le glaucome?
En un mot, notre combat, c'est éviter la cécité précoce. Car le sujet, quand même, c'est l'essence de la vie. C'est pourquoi nous insistons sur le dépistage précoce. Nous insistons sur la subvention de cette pathologie. Et non seulement ça, pour nous qui avons déjà contracté, qu'on ne puisse pas croiser les bras. Jadis, je venais de suivre le chiffre de la Société française du glaucome. On parle des cellules souches dans la moelle osseuse, où ils essayent de vivifier les nerfs optiques pour éviter la cécité précoce. Ça, c'est notre idéal. Nous avons suivi des Canadiens à Montréal. Ils étaient des glaucomantés comme nous, mais avec des innovations, ils ont évité la cécité précoce. Mais vous restez malvoyant à forte vision, au lieu d'être un non-voyant total. Ça, c'est ambigu, c'est compliqué pour nous. Ça, c'est notre combat d'abord. Pousser l'exécutif, surtout le ministère de la Santé et ses partenaires. Vous savez, c'est depuis les temps de Teni Longondo qu'on a un pléthore des accusés de réception pour demander l'audience au ministère de la Santé sans succès. On nous a jamais réussi. Le dernier date de mars dernier et jamais on nous a réussi. On fait tout pour le VIH, le Covid, le paludisme, les Mpox. Mais les pathologies oculaires telles que le glaucome, une pathologie invalidante qui est irréversible jusque-là. On sent l'absence totale, la désertion de l'exécutif du pouvoir public. Au mois de décembre dernier, j'étais au Grand Kivu. Goma, Bukavu, 80% de non-voyants, c'est le glaucome. 70% de malvoyants, c'est le glaucome. Des jeunes filles, des jeunes garçons. C'est un problème de santé publique, mais il n'y a pas l'accompagnement de l'État.
Qu'est-ce que vous demandez comme plaidoyer pour la prise en charge et la lutte contre cette maladie?
Nous exigeons le dépistage précoce à tous les niveaux. Dans les écoles, dans les entreprises, dans des milieux publics, dépistage nomade ou mobile. Pourquoi pas même dans des églises? La subvention de cette pathologie. Aujourd'hui, la consultation oculaire coûte un minimum $20. Un parent qui a 5, 3, 4 enfants, c'est un budget, non? Et nous qui sommes déjà victimes, on ne peut pas nous laisser comme ça, comme il y a encore une petite division, et nous évacuer ailleurs pour aller pousser des limites et sauver nos yeux de la cécité totale. Si vous perdez la vie, c'est à perpétuité. Et ça, c'est compliqué, monsieur le journaliste.
Radio Okapi vous remercie, monsieur Jacques.
C'est nous qui remercions la Radio Okapi.
Voilà, excusez-nous car la qualité sonore de cet élément n'était pas très très bonne. Ainsi s'achève ce journal. Au nom de Martin Sebujango, Élisée Chikota et Dieudonné Nyangassa, je vous dis merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous et surtout restez branchés sur Radio Okapi.